pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le 11 mars 2011 avait lieu au Japon un tsunami, une tempête. Et suite à ce tsunami, une catastrophe nucléaire dans la centrale de Fukushima Daiichi. Beaucoup de gens ont été évacués. D'autres sont morts. On sait que d'énormes substances radioactives ont été émises par la centrale de Fukushima Daiichi suite à cet accident dont la responsabilité incombe à TEPCO, The Tokyo Electric Power Company. Cette radioactivité s'est largement répandue au-delà des frontières du département, contaminant un très large périmètre, et malgré cela, le gouvernement ne mène des études sur le cancer de la thyroïde que dans le seul département de Fukushima. Ce 3 avril 2019 avait lieu une rencontre avec deux familles de réfugiés de Fukushima victimes de l'accident nucléaire. Sont intervenues Madame Akiko Morimatsu et Madame Miwa Kamoshita. Elles ont décidé de quitter leur lieu de résidence dans le département de Fukushima à cause de l'accident nucléaire. Leurs communes n'ont pas été décrétées zones à évacuer. Et pourtant, comme elles ont pu le constater dans leur quartier, le niveau de la radioactivité était beaucoup trop élevé pour y vivre et élever leurs enfants en sécurité. Et en ce mois d'avril, elles étaient donc de passage à Paris. Elles sont intervenues, eh bien, ce 3 avril 2019, à la mairie du 2e arrondissement. Et dans l'émission de ce jour, c'est leur intervention que nous allons entendre. Ces interventions en disent long sur la situation aujourd'hui à Fukushima.
Bonsoir, donc, moi je me présente, je suis Annie Lamère, je suis la directrice de cabinet du maire.
Bienvenue aux familles en fait. Ce soir on a vraiment la preuve et on sait encore plus pourquoi le nucléaire n'est pas une solution, et en tout cas pas une solution au changement climatique, puisque par les temps qui courent, on veut nous expliquer que le nucléaire, c'est la solution au changement climatique parce qu'il n'émet pas de CO2. Mais là, on voit ce qui peut se passer. Et juste pour votre info, puisqu'on travaille beaucoup avec la CRIRAD à la mairie du 2, hier, le maire du 2e a déposé un vœu au Conseil de Paris pour qu'il y ait des sondes sur Paris et en Île-de-France, des sondes qui permettent de capter en temps réel le taux de radioactivité. En fait, ce n'est pas automatiquement pour des problèmes de fuite de centrales nucléaires. Pour exemple, il y a certaines de ces bornes dans le sud de la France, et il y a quelques mois, ça a permis de se rendre compte que des produits qui émettaient de la radioactivité étaient en train de brûler dans le sud de l'Espagne. Donc c'est vraiment la preuve que on peut avoir... Enfin, moi, je vis dans une ville où on avait une école sur un site radioactif, qui était un site de Marie Curie. Moi, j'ai fait fermer cette école. Et donc, la radioactivité, en général, enfin, elle est là. Elle est là, et quand on nous dit elle est naturelle, non, elle n'est pas toujours naturelle. Et donc, voilà. Enfin, je voulais juste vous dire bienvenue. Puis surtout que ces familles, je trouve ça génial qu'elles soient là avec nous et puis qu'elles puissent nous expliquer ce qu'est leur vie et les dommages qu'a causé Fukushima. puisque c'est quand même pas rien. Voilà. Bonne soirée.
Donc, je suis Charlotte Pigeon du réseau Sortir du Nucléaire. Et donc, nous soutenons cette initiative donc, de faire venir les mamans de Fukushima et leurs enfants, ainsi que l'ensemble des événements qui ont lieu ce printemps à l'initiative de ressortissants japonais, donc pour faire venir des témoins de la catastrophe en France. Je tiens à saluer donc, Yosomono et Sortir du Nucléaire Paris pour avoir organisé ces événements et saluer aussi le courage des... de toutes les familles donc, de la région de Fukushima qui luttent pour faire reconnaître leur droit à vivre dans un environnement sain en famille. C'est très très important et c'est très important qu'en France, on puisse entendre ces témoignages-là pour prendre conscience aussi de ce que veut dire être victime d'un accident nucléaire. Savoir que ce n'est pas juste une question de becquerel, de technique, mais c'est une question aussi qui va se traduire par des situations humaines très difficiles. Il faut qu'on en prenne conscience. Pour que nos dirigeants en prennent conscience également, parce que je suppose qu'ici vous êtes quasiment tous persuadés, pour savoir que malheureusement en France on n'est pas à l'abri d'un accident et que donc il faut absolument qu'on fasse tout notre possible pour éviter un accident nucléaire en France, et ça passe par une politique de sortie du nucléaire dans des délais les plus rapides possibles. Voilà.
Donc, je vais vous présenter deux familles. En fait, ils sont là depuis 10 mars et ils ont été dans plusieurs villes en Europe, en Allemagne, en Angleterre, à Londres, en Belgique, en Italie. Mme Kamoshita va raconter aussi. Et demain matin, ils s'en vont vers le Japon. Donc ce soir, c'est leur dernière conférence et nous sommes très heureux de pouvoir le faire dans le deuxième arrondissement de Paris. Voilà, devant un public parisien, c'est quand même la première fois pour ces deux familles de pouvoir témoigner devant un public parisien. Voilà, donc il y a donc la famille Kamoshita. Je vais commencer par vers la droite. Pour vous, alors, donc c'est Matsuki qui a 16 ans, Madame Miwa Kamoshita. Alors Haruki-kun, voilà, il est en train de faire le pliage peut-être, parce qu'ils sont très très doués pour faire des cocottes, les grues, symbole de la paix, voilà. Et donc il y a Meiya, donc ça c'est la famille Monimatsu, donc où ils sont réfugiés à Osaka. Famille Kamoshita et réfugiée à Tokyo. Donc Meiya, 8 ans, Madame Akiko, donc Morimatsu, et Meiyo, 11 ans. Voilà. On va commencer par donc, la présentation de Miwa Kamoshita. Merci.
Bonjour. Alors, je vais vous présenter. 福島からの避難者を、このような立派な場所に招待してくださってありがとうございます。
Je remercie d'abord les associations qui nous ont permis d'être avec vous ce soir, nous qui sommes des réfugiés de Fukushima, et de pouvoir parler devant vous dans ce merveilleux établissement. Alors, voyez, nous avons apporté du Japon ces panneaux.
福島から避難しているお母さんや子どもたちの絵です。
Il s'agit de panneaux de peinture qui représentent toutes les familles qui se sont réfugiées hors de Fukushima après la catastrophe avec leurs enfants, enfin, les mamans avec leurs enfants.
この絵を描いた小林さんはすでに200家族以上の絵を描いています。
Ça a été fait par un peintre qui s'appelle Monsieur Kobayashi et qui a représenté un nombre très élevé de ces familles, en tout 200 dessins, enfin 200 portraits de ces familles.
Fukushima,
Et donc, il s'est intéressé au sort des nombreuses familles qui ont fui Fukushima et quelquefois qui sont réfugiées dans des zones qui n'étaient pas désignées officiellement pour l'évacuation. Et donc, il s'est intéressé au sort de ces familles et il a essayé de rendre le mieux possible l'atmosphère qui émane de ces familles.
この絵の多くは母親と子供、つまり父親がいない絵が多いという特徴があります。
La caractéristique, c'est que vous voyez des mamans avec leurs enfants, mais sur la plupart de ces peintures, le père est absent.
それは私たちが政府の出した避難区域の外側からの避難者であるという特徴によるものです。
Et donc là, il s'agit d'une caractéristique des familles, comme je vous disais, qui se sont réfugiées de leur propre chef hors des zones d'évacuation désignées par le gouvernement japonais. Et donc, ce sont les mères qui ont fui avec leurs enfants. Bon, je reviendrai plus en détail sur ce contexte tout à l'heure. C'est la première fois qu'on a fait un portrait de moi.
この画家の小林さんは実は私たち の姿を見て描くのではなくまず1時間ぐらい私たちの話をじっくり聞きました。
Alors, la caractéristique de ce peintre, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire nos portraits, c'est-à-dire il a pris largement le temps, chaque fois au moins une heure, lentement, pour parler avec nous avant de commencer à dessiner.
私は泣きながらこのモデルになった時6年目だったので6年間のことを話しました。
Et donc, je lui ai parlé tout en pleurant à certains moments de notre sort. C'était à l'époque, c'était 6 ans après la catastrophe de Fukushima. Et donc, un an après, quand mon fils cadet a vu cette représentation de la famille, il a dit « Non, non, mais c'est une blague. En réalité, tu souris jamais comme ça. » Parce que bon, au moment où le peintre faisait nos portraits, moi je n'arrêtais pas de pleurer en fait. Et donc vous voyez de l'autre côté, c'est la famille de Madame Morimatsu. Et donc là vous voyez, elle aussi elle sourit. Mais ce n'était pas quelque chose d'artificiel pour une représentation artistique. Et donc, en fait, je pense que certains d'entre vous connaissent, enfin dans l'esthétique japonaise classique, par exemple, quand on est représenté, le mieux c'est d'avoir une attitude un petit peu plus retenue et de ne pas exprimer de façon très excessive nos émotions.
Comme la Gioconde.
Mais le peintre a vraiment pris l'initiative de nous représenter avec un visage très souriant. Après la catastrophe de Fukushima et pendant des années, nous avons traversé toute une série d'épreuves qui ne nous permettaient pas vraiment de rire ou de sourire. Donc finalement, il a préféré capter ces visages-là. Et je pense que c'est aussi l'expression de visage que nos enfants souhaitaient voir. Et six mois après la réalisation de cette peinture, cette fois c'est mon mari qui pour la première fois a vu ce portrait. Il a dit « J'ai l'impression de retrouver la femme que je connaissais avant la catastrophe de Fukushima. » Et donc à chaque fois que moi je regarde ce portrait, j'ai l'impression de revenir à l'origine de notre famille, à l'origine de notre vie avant la catastrophe. Alors vous voyez, ça c'est une photo qui a été prise de mes deux enfants, bien évidemment, avant la catastrophe. Et là, ils se trouvent un mois avant l'explosion, devant l'entrée de la maison, dans notre petit jardin. Et donc, à l'époque, mon aîné avait 8 ans et le petit 3 ans.
地震が起きて、津波が起きて、その後で原発事故が起きました。
Et donc, comme vous le savez, il y a eu un tremblement de terre qui a entraîné le tsunami, qui a entraîné la catastrophe de Fukushima. Donc, il s'agit d'une triple catastrophe. Et donc, quand il y a eu les secousses dans notre ville, les secousses étaient tellement violentes qu'il était presque impossible de se tenir debout. Et j'ai eu le réflexe, bien sûr, de prendre mon garçon dans mes bras, de le serrer dans mes bras. Très vite après ça, est arrivé cet accident qui était absolument incroyable. En fait, le gouvernement japonais n'avait pas désigné comme zone à évacuer d'urgence la ville et la région dans laquelle nous habitions. Mais moi, comme beaucoup d'autres personnes, nous étions tout à fait au courant des conséquences de l'explosion de Tchernobyl et nous avons décidé le plus rapidement possible de fuir la région. Donc, vous voyez, nous habitions dans la ville d'Iwaki qui se trouve environ à 40 km au sud de la centrale de Fukushima Daiichi. Et en revanche, la famille de Madame Morimatsu habitait à Kōriyama qui se trouve à l'ouest à environ 60 km de la centrale. Alors le gouvernement a aussitôt décrété que la zone qui se trouvait dans un rayon de 30 km autour de la centrale devait être évacuée. Et comme on le sait bien évidemment, la radioactivité ne s'arrête pas aux frontières et donc n'allait pas s'arrêter au diamètre des 30 km. Et donc, nous avons fui vers Tokyo. Et la famille de Madame Morimatsu, en passant de l'autre côté, est allée se réfugier dans la région d'Osaka. Et en fait, les routes étaient complètement défoncées à la suite du tremblement de terre, notamment. Et donc, pour faire le trajet en voiture de notre ville jusqu'à Tokyo, d'habitude, ça prend environ 3h30, ça nous a pris 19h. Et là, c'est une photo qui a été prise au bout de 15 heures de route. Nous nous sommes arrêtés dans un petit supermarché qu'on a enfin découvert sur le chemin. Et donc, vous voyez, on est entré dans le supermarché, mais pratiquement, il y avait une rupture de stock pour pratiquement tous les rayons, notamment d'alimentation. Alors voilà, sur la droite, vous voyez un plan qui a été diffusé, enfin publié assez souvent, sur le degré d'irradiation, enfin de radioactivité, dans toute la zone entourant Fukushima. Et donc, c'est la carte de contamination par le césium 134. Et au bout de 2 ans après l'accident, enfin, cette carte-là a été publiée, mais simplement 2 ans après. Et donc, il s'agit d'une carte qui indique le degré de contamination par l'iode 131. Il s'agit d'un radionucléide qui a une durée de demi-vie très courte, environ 8 jours.
Ce qui fait qu'en 3 ans, elle disparaît.
Oui, donc quand les mesures ont été faites, bien après l'accident, cette contamination ne pouvait pas apparaître sur une carte. Depuis l'accident, il y a eu toute une série d'examens en santé publique et il est avéré qu'un grand nombre d'enfants et d'adolescents sont atteints déjà du cancer de la thyroïde. Oui,
oui, parce que l'iode, c'est tout au début de l'accident, c'est l'iode qui contamine et c'est très important parce que ça déclenche justement le cancer de la thyroïde.
Quand j'ai vu cette photo, j'ai regardé la zone où j'habitais. Alors, en fait, bon, quand cette carte a été publiée, j'ai regardé où se situait notre ville sur la carte.
私の住んでいた場所はこの緑色か何も色がないかのギリギリのあたりです。
Alors, vous voyez, notre ville et notre région se trouvent absolument à la frontière entre l'endroit où il y a du vert, c'est-à-dire un taux de contamination plutôt réduit, et un endroit où il n'y a pas de couleur, donc soi-disant c'est pas contaminé.
変な地図なんです。本来なら赤、黄色、黄緑、水色、青、茶色というグラデーションになるはずなのに。
Alors, j'ai trouvé ça très étrange que tout à coup, enfin, alors qu'il y a une gradation de couleur en fonction du degré de contamination, tout à coup, quand on arrive dans notre région, il n'y a plus du tout de couleur. Et donc, on a l'impression que cette zone, enfin notre région d'Iwaki, a été pratiquement lavée, si on peut dire le cas. Alors, ça me posait question, et donc j'ai fait toute une étude pour savoir quels étaient les documents sur lesquels on s'était basé pour établir ce degré de contamination.
すると2011年の4月の2日と3日に政府の指示で、ヘリコプターで上空から汚染を調べたというデータが出てきました。
Alors, j'ai découvert des informations selon lesquelles très peu de temps après l'accident, c'est-à-dire le 2 et le 3 avril 2011, sur la demande du gouvernement, des hélicoptères avaient survolé du nord au sud toute la zone.
福島県の境目はこの辺りなのに、なぜか私の住んでいたいわき市を避けるように飛行機が、あ、ヘリコプターが飛んでいます。
Et alors, ce qui est très curieux, c'est que vous voyez la frontière, enfin, au sud du département de Fukushima, elle est là en bas, et tout à coup, on s'aperçoit que notre région d'Iwaki, elle est littéralement absente de ces mesures faites par l'hélicoptère.
ちょっと分かりやすいようにその辺りの人口の分布の地図を載せました。
Alors, voilà, une carte qui montre la répartition de la population dans le département de Fukushima.
原発の周りは人口がすごく少ないので小さな丸か丸がないところが多いです。
Alors, il faut savoir que dans la région des deux centrales, cette région était très très peu habitée. Pour marquer certaines villes, vous n'avez que des petits ronds qui indiquent une faible population ou pas de ronds du tout.
でも私の住んでいたいわき市は人口34万人の大きな町でした。
Mais en revanche, la ville où nous habitions, Iwaki, avait une population de 340 000 habitants.
特にこの辺りに人口が集中しています。
Et vous voyez, c'est dans cette zone-là que la population était concentrée.
さらに森松さんが住んでいた郡山市も大きな丸です。
Et vous voyez, il y a aussi un très grand rond autour de Koriyama, la ville où habitait Madame Morimatsu et sa famille.
人口30万人を超える大都市です。
Et là aussi, une ville d'une population qui excédait les 300 000 habitants.
そして、県庁がある福島市、それも人口30万人です。
Et c'était la même chose pour le chef-lieu du département, la ville de Fukushima, population qui excédait les 300 000 habitants.
この地図を重ねてみます。
Alors, vous voyez, si on fait se chevaucher les deux cartes,
人口が多いところをまるで避けるように測定しているように私は感じました。
Et donc, on se rend compte que les zones qui étaient les plus fortement peuplées, eh bien, ont été exceptées, si l'on peut dire, des mesures qui ont été faites par hélicoptère concernant la contamination radioactive.
ラインは新幹線が走っています。
Alors, vous voyez, là, à l'ouest, du sud au nord, c'est la ligne du Shinkansen, donc le train à grande vitesse qui va vers le Tohoku de Tokyo, donc qui longe bien évidemment les villes les plus peuplées.
そのような街から、でも私たちは避難をしたら、政府の指示がない、汚染がないところから逃げているという批判を受けました。
Et donc, nous, on nous a critiqués.Pour ne pas avoir fui dans les zones qui étaient désignées, les deux zones d'évacuation du gouvernement. Mais dans notre ville et dans la région, il y avait des mamans qui ont tout de suite décelé chez leurs enfants des symptômes qui étaient assez inquiétants, notamment des saignements de nez très très violents. C'est une des raisons pour lesquelles immédiatement elles ont décidé de fuir.
原因は全く分かりませんが、避難所にいると鼻血を吹く子や30分ぐらいずっと鼻血が止まらなくてそれを洗面器で起きている子を何人も見ました。
Et donc, on ne savait pas encore quelle était la cause directe de ces saignements de nez, par exemple, mais ce n'était pas des petits saignements de nez, c'est-à-dire ça pouvait durer pendant 30 minutes ou bien arriver de façon extrêmement fréquente et il fallait véritablement que le nez de l'enfant soit au-dessus d'une bassine pour pouvoir recueillir le sang. Alors voilà, ça c'est des photos qui ont été prises pendant notre fuite, enfin au moment où on commençait à pouvoir s'installer dans un nouvel endroit.
ラッキーなことに私はあの政府が用意した、避難住宅に入ることができました。
Alors, nous avons eu la chance en ce sens que nous avons pu entrer dans un logement provisoire qui avait été préparé spécialement pour les réfugiés.
でも多くの避難者はあの避難指示が出ていない場所から避難しているということで、こういう住宅に入れなかったり、
Il faut faire la différence entre les réfugiés qui sont allés dans les zones d'évacuation, enfin les zones désignées par le gouvernement, et les réfugiés qui ont pris l'initiative de partir ailleurs. La plupart de ceux-là ne pouvaient pas avoir à leur disposition des logements provisoires dans les zones qui n'étaient pas désignées officiellement.
避難する必要のないところから避難しているということで、あの東京電力からの賠償金がほとんどない、もしくは全くないという状態でした。
Et d'autre part, dans la mesure où nous étions censés avoir fui dans des zones où nous ne devions pas fuir, les indemnités qui nous ont été consenties par TEPCO étaient soit très très faibles, soit dans certains cas quasiment, enfin inexistantes.
避難するあのだけの賠償金がないので、あのお父さんたちは福島に残って働いて。あの家族を避難させるためのお金を稼ぎ続ける必要がありました。
Alors, l'une des caractéristiques aussi, c'est dans la mesure où nous n'avions pas d'indemnité, les parents, enfin, c'est-à-dire les pères, qui travaillaient à Fukushima, ont été pour la plupart obligés de rester dans le département de Fukushima pour continuer à travailler et pour pouvoir financer l'évacuation de leur famille. C'est une des raisons pour lesquelles sur ces portraits vous ne voyez pas de pères, uniquement les mamans et leurs enfants, puisque les pères sont restés à Fukushima pour leur travail.
そんなあの生活の中であの息子が書いたあのお手紙があるのでそれを。
Et donc c'est dans ces conditions que mon fils Matsuki a écrit le texte que j'aimerais vous faire entendre maintenant. Lettre de Matsuki Kamoshita. Je suis née à Iwaki, dans le département de Fukushima, et c'est là que j'ai grandi auprès de mes parents et de mon frère cadet, qui a 5 ans de moins que moi. Nous avions l'habitude d'aller en famille contempler les cerisiers chaque année au printemps, dans un parc appelé la forêt de la nuit, un parc tellement beau qu'on montrait souvent à la télévision ces allées bordées de cerisiers en pleine floraison. En été, on ramassait des coquillages au bord de la mer. À l'automne, on cueillait des champignons dans les bois. Et l'hiver, on faisait des bonhommes de neige. Sur le chemin de l'école, j'avais l'habitude de ramasser des prêles des champs. Ma mère en faisait un plat délicieux. On habitait une maison spacieuse avec un grand jardin où l'on faisait pousser des myrtilles, des champignons shiitake et des tomates cerises. Mes copains d'école et moi, on cherchait des insectes dans l'herbe et on fabriquait des billes avec de la terre. Mais le 11 mars 2011, cette vie heureuse a subitement pris fin. J'ai dû quitter Fukushima avec ma famille pour me réfugier à Tokyo. Le gouvernement n'avait pas donné l'ordre d'évacuer notre ville, mais les mesures du taux de radioactivité montraient que la région était contaminée bien au-delà des zones d'évacuation officielles. C'est pour éviter d'être exposé à la radioactivité que nous avons fui. Nous sommes ainsi devenus ceux qu'on nomme depuis ce jour les auto-évacués. Mais le pire pour moi, c'est le harcèlement dont j'ai été victime à l'école où j'ai été scolarisée à la suite de notre évacuation. Je découvrais par exemple des insultes griffonnées sur les dessins que je faisais en classe, ou encore on me traitait de bacille. Cette multitude de réactions triviales a fait de moi une victime de violence et de discrimination. Ce harcèlement, bien d'autres enfants réfugiés, scolarisés dans une nouvelle école, l'ont subi comme moi. En ce qui me concerne, je me sentais continuellement en danger et j'étais dans un état de tension permanent, malgré tous les efforts faits par mes parents et par certains enseignants pour éviter cette situation. Et comme cela ne cessait pas, j'ai fini par me dire qu'il vaudrait mieux que je disparaisse. J'avais environ 9 ans quand j'ai fait un vœu, j'ai demandé à mourir. Peut-être qu'aux yeux des gens qui ne connaissent pas la réalité de l'évacuation, les réfugiés de Fukushima renvoient l'image de profiteurs. Sans doute s'imagine-t-il que nous avons bénéficié de fortes indemnités, même si nos maisons n'ont pas été détruites, même si nous n'avons pas subi de dommages matériels. Sans doute même croit-il que nous sommes maintenant logés gratuitement à Tokyo. Je suis convaincue que ce malentendu ne se serait pas produit si TEPCO et le gouvernement japonais avaient transmis des informations exactes sur les conséquences redoutables de la contamination radioactive et s'ils avaient publiquement expliqué que les réfugiés dont la résidence était située hors des zones d'évacuation officielles n'avaient reçu quasiment aucune indemnité. La vie m'était devenue si insupportable qu'à mon entrée dans l'enseignement secondaire, j'ai choisi un collège situé loin de chez nous et décidé de dissimuler le fait que j'étais réfugiée nucléaire. Comme je m'y attendais, le harcèlement à mon égard a alors cessé. Je n'avais pas réalisé jusque-là à quel point la vie scolaire est paisible quand on n'est pas harcelé. Auprès des nouveaux amis que j'ai pu enfin me faire, ma nouvelle vie de collégien est devenue un vrai bonheur. Mais au bout de 2 ou 3 ans, j'ai commencé à éprouver un nouveau tourment. Cacher le fait que je suis réfugiée nucléaire signifie qu'il m'est impossible de révéler à mes camarades que je suis née à Fukushima. Je ne peux pas évoquer devant eux les souvenirs heureux de mon enfance, ni leur dire que nous menons une vie de réfugiés pour nous prémunir de l'exposition aux radiations, ni que nous habitons dans un logement mis temporairement à notre disposition, ce qui est une situation angoissante et précaire. Je ne peux pas leur faire savoir que le gouvernement veut que nous retournions à Fukushima alors que le risque de contamination radioactive est toujours présent. Bref, je dois vivre en cachant d'où je viens et qui je suis. Même à mon meilleur ami, je ne peux pas révéler ma vraie personnalité. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à l'école que je dissimule mon identité. Au Japon, quand je parle de Fukushima et de l'évacuation, c'est toujours sous couvert d'anonymat. De même, ma photo n'a jamais été publiée. Pourtant, comme tous les autres réfugiés, je n'ai rien fait de mal. Mais nous sommes obligés de nous cacher comme de vulgaires criminels. Or, qui peut prendre au sérieux un témoignage anonyme, sans nom et sans visage ? Là est la contradiction. Tout en désirant parler aux amis et aux gens à visage découvert de la vérité de ce que j'ai vécu, je crains, si je le fais, et qu'on ne m'accepte pas en tant que réfugié, d'être à nouveau victime de harcèlement, et de perdre la vie paisible que j'ai construite jusqu'ici avec tant d'obstination. C'est ce que je redoute le plus. L'exposition aux radiations, la contamination radioactive, les communautés brisées, toutes ces injustices font partie intégrante de mon problème existentiel. Cependant, afin de me préserver, je me suis interdite de parler de Fukushima. En même temps, puisque je suis seule responsable de cette décision, je n'arrive pas à me pardonner de m'infliger cette souffrance. Y a-t-il beaucoup d'enfants et d'adolescents qui subissent les mêmes souffrances que moi ? Penser à tout cela me brise le cœur. Ce sont les adultes qui ont construit les centrales nucléaires, eux qui en retirent du profit, eux qui sont responsables de l'accident. Et pourtant, c'est nous, les enfants, qui sommes directement victimes de harcèlement, nous qui vivons dans l'angoisse de tomber malade un jour, nous qui, trop souvent aussi, sommes obligés de vivre loin de notre famille. Je ne souhaite pas retourner à Fukushima avant que les risques liés à ce retour ne soient écartés. Car malheureusement, la durée de vie des matières nucléaires est beaucoup plus longue que la nôtre. Les effets sanitaires liés à l'exposition peuvent apparaître 10, 20 ou 40 ans plus tard. Pour l'État japonais, qui s'obstine à promouvoir le nucléaire à travers des mesures tordues et fait en sorte de minimiser les dégâts de l'accident nucléaire afin de camoufler la réalité des faits, nous, les victimes de l'accident de Fukushima, toutes générations confondues, nous ne sommes que des témoins gênants. C'est pourquoi nous sommes les cibles de harcèlement et subissons la discrimination. Nous sommes donc condamnés à vivre cernés de matières radioactives produites par des industriels avec l'appui du pouvoir politique. Mais la plupart de ces gens-là, qui entraînent le monde vers la folie, ceux qui nous empêchent de parler et camouflent leurs crimes, vont naturellement mourir avant nous, sans voir les conséquences à long terme de leurs actes. Allons-nous les laisser s'en sortir ainsi ? Ce serait trop injuste qu'ils finissent leur vie sans affronter leurs responsabilités, après avoir gagné autant d'argent, débité autant de mensonges, contaminé les océans du monde entier, en laissant aux générations suivantes la lourde charge de payer la note. Je suis submergée par des sentiments que je n'arrive pas à mettre entièrement en mots. Mais une chose est sûre, mon seul désir, c'est de pouvoir mener une vie ordinaire et paisible, sans rien dissimuler. Malheureusement, dans la société japonaise actuelle, les victimes de l'accident nucléaire ne peuvent pas vivre en sécurité, à moins de détourner le regard, de se boucher les oreilles et de fermer la bouche.
しかし、僕は先週バチカンで教皇にこのことを伝える機会を得ました。それは僕に最後の勇気を与えてくれました。これから僕は自信を持って前に出ていこうと思います。これから僕はこの手紙に僕の本名を署名します。僕の名前は鴨下松樹です。
Cependant, j'ai enfin pris la décision de dévoiler mon identité. Le 20 mars, j'ai pu m'adresser au pape, au Vatican, et cette rencontre m'a donné la confiance qui me manquait pour m'exprimer en public et pour témoigner en tant que membre de la génération suivante sur les conséquences de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Aussi, aujourd'hui, je suis fière de signer cette lettre de mon vrai nom. Je m'appelle Matsuki Kamoshita.
Merci.
Monsieur le Président, les moyens techniques requis sont largement à la portée de n'importe quelle puissance nucléaire. Il suffit qu'elle ait la volonté de le faire. Étant donné que la décision est prise par un procédé cybernétique irréductible, excluant toute intervention humaine, la machine éternelle est terrifiante.
Air énergivore, centrale atomique, bosse guerre froide, déchets radioactifs, des catastrophes rétroactives, des malformations, des cancers de la thyroïde. Sur un plateau, je te sers de la DHT, des radiations, enfouissement des déchets, des décrets, des procédés mutilés. Areva, protégé par les casquets, et quand vient une à disjoncter, des liquidateurs qui ont liquidé des millions de sujets irradiés. Et dans leur JT, pas de danger, nos veines transpercées du rocher, nos ailes des chairs survoltées. Mon rire rayonne, j'ai la vue fluorescente, vision de ténèbres, nos cœurs en sang, en vue des catastrophes qui sont récentes, des Fukushima, 3 miles Island, des Tchernobyl, des nuages de cendres, énergie civile, sûreté incandescente, complexe militaire pour Hitler, il est Hitler, des projets génocidaires, il déclenche des guerres pour l'uranium qu'il pillère. On soutient des luttes minoritaires, comme un chef-frère, la pure en enterre, les débats publics, sabotage réfractaire, diversité tactique contre le nucléaire.
C'est extravagant. Comment est-ce que ça peut fonctionner automatiquement? Eh bien, c'est une simplicité parfaitement infantile. Elles sont connectées à une gigantesque complexe d'artinats. Alors, un ensemble de conditions définies et de circonstances précises est programmé et stocké dans une mémoire électronique.
Que dégage, dégage du vocal. Arrive à chier, tu pues du nuque, ni à bure, ni ailleurs, va te faire enfuir, on est des dérailleurs, on est des dérailleurs. un enfer vert, renouvelable et nucléaire. Une égalité entre centralisation et autoroute à très haute tension. Se couper du réseau comme objectif clair. S'occuper de débrancher nos ennemis. L'autonomie énergétique en court-circuit. Avec notre dépendance qui irradie. Et qui ira dire que Linky c'est l'avenir. Jean-Marc sous zéro a passé commande. Nos libertés puissées comme offrande. Le photovoltaïque et l'éolien qui justifient la construction de l'internet de l'énergie. Un réseau d'énergie intelligent. Adapter les flux à la consommation des gens. Variation des prix en temps réel. Croissance des firmes en tête promotionnelle. C'est automatique, mon cybernétique. Correction plastique, connexion pratique. Énergie quantique, contrainte sémantique. Spécifique technique, cyborg romantique. Contrainte éthique, tout synthétique. Réseau domotique, omniscientifique. Aucune communique.
Poursuivons l'écoute de cette rencontre qui avait lieu ce 3 avril 2019 à la mairie du 2e arrondissement. Et nous parlions de Fukushima avec deux familles de réfugiés de cette région victimes de l'accident nucléaire.
Comme si je ne l'étais pas déjà. Comme si nous ne l'étions pas déjà. La probable possibilité de brûler tout ça, tout ça.
Alors maintenant, on va passer au témoignage de la famille Morimatsu.
Paris, France, no minasan, konbanwa.
Oui, je vous salue tous. Bonsoir à tout le monde ce soir à Paris.
Morimatsu Akiko to moshimasu.
Je m'appelle Akiko Morimatsu.
Watashi wa Nihon de okiteiru.
Je suis déléguée de Pyongyang du procès au civil contre TEPCO et le gouvernement japonais pour demander les indemnités. Et je suis aussi déléguée de, parce qu'il y a plusieurs trentaines de groupes de plaignants et je fais partie de, à la fois du délégué de Osaka et puis de la déléguée de la fédération de ces procès. Donc voilà, pour chaque département ou région, des victimes se sont constituées en groupe de plaignants pour faire ce premier procès, demander des indemnités à la fois à l'encontre de TEPCO et du gouvernement japonais. Et nous avons créé la fédération de ces groupes de plaignants de victimes. Et du fait, je suis aussi la déléguée pour cette fédération. À l'intérieur de l'archipel, il y a 47 départements au Japon, et du Hokkaido au nord jusqu'au sud, dans l'île de Kyushu, il y a plusieurs, il y a trentaine de donc, groupes de plaignants, et mais les victimes sont dans tous les 47 départements. Moi, par exemple, dans la région de Osaka, j'ai fait, en plus du groupe de plaignants, j'ai créé une association qui s'appelle Thanks and Dream, donc merci et puis rêvons, voilà. Nous sommes vraiment partout dans l'archipel, les victimes se regroupent pour nous tenir et pour demander les indemnités et pour demander nos droits de vivre.
Je
vais faire parler à ma fille Meya qui avait 5 mois au moment du 11 mars.
Je m'appelle Morimatsu Meya. Je suis partie de Fukushima avec ma famille pour me réfugier à Osaka. Et donc, avec les deux familles, je suis venue ici à Paris pour vous parler de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et donc, je suis avec mon frère et ma maman réfugiés à Osaka, mais mon papa, qui est médecin, continue à vivre à Fukushima puisqu'il doit s'occuper de ses patients. Et c'est vraiment de la faute de la radioactivité s'il y a tellement de familles comme nous dans lesquelles nous sommes dispersés puisque nous vivons avec nos mamans tandis que les papas sont ailleurs. Après la catastrophe nucléaire, il y a eu une diffusion de radionucléides dans l'atmosphère, mais ça n'a pas simplement contaminé l'atmosphère. Ensuite, il y a eu une contamination des sols et une contamination de l'eau, enfin de, et notamment de l'eau de mer. La radioactivité, c'est une substance qui est extrêmement mauvaise pour le corps humain, pour la santé. C'est pour ça que nous nous sommes réfugiés ailleurs qu'à Fukushima. Je voulais préciser que mon papa est médecin. Et c'est pour ça qu'on l'a laissé là-bas à Fukushima et que nous, on vit maintenant à Osaka. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venu ici aujourd'hui et de vous écouter, d'écouter notre témoignage. Et je cède la parole à maman.
Alors voilà ma fille de 8 ans, donc ça fait 8 ans qu'elle vit loin de son père, parce que le père veut bien qu'il ne soit pas moi, et donc notre famille est séparée, et moi, il faut que j'explique, j'ai toujours expliqué à mon fils et à ma famille pourquoi nous devons vivre loin de leur père. Et donc c'est pour j'explique que donc la radioactivité c'était pour fuir la radioactivité que nous sommes obligés de fuir cette mauvaise substance pour pouvoir vivre dans les meilleures conditions, mais ce n'est pas notre faute. Nous on n'a rien à se cacher, nous sommes obligés de vivre loin du père, mais c'est tout ça n'est pas notre faute, donc je ne peux pas avoir honte. Voilà, c'est comme ça que j'explique à mes enfants.
De nombreuses
mères sont parties pour fuir des terrains contaminés parce que la centrale nucléaire, il y a eu cet accident nucléaire et que des éléments radioactifs ont été dispersés dans l'air, dans l'environnement, et que nous avons constaté qu'on ne pouvait pas vivre dans un environnement aussi dangereux. Si nous voulons vivre loin de notre famille, enfin de notre foyer d'antan, c'est pour protéger nos propres vies, mais surtout pour protéger la vie et la santé de nos chers enfants. Malheureusement, pendant toutes ces 8 années, le gouvernement japonais et les autorités japonaises n'ont pas écouté donc, cette voix des mères et des enfants qui demandent pour pouvoir fuir la radioactivité et pouvoir vivre dans l'environnement plus sain. Ils n'ont fait aucune loi pour protéger toute cette population des mères et des enfants, des familles qui vivaient sur les territoires contaminés. Non seulement ils n'ont rien fait pour protéger, pour penser à la radioprotection de ces populations, au contraire maintenant, ça fait 8 ans, et puis l'année prochaine, en 2020, il y a les Jeux Olympiques de Tokyo, et ce qu'essaie de faire le gouvernement japonais, c'est faire revenir les réfugiés à Fukushima. Ils font beaucoup de campagnes dans ce sens. Et ce qu'ils veulent, ce n'est pas pour protéger la population de la radioactivité, mais pour dire que, voilà, maintenant, on peut revenir à Fukushima. Au début de l'accident en 2011, en avril, nous avons déjà été irradiés. Et c'était quelque chose qui n'était pas prévu et qui ne devrait pas y avoir. Mais nous avons été irradiés contre notre volonté. Comme vous savez, la radioactivité, ce n'est pas visible, elle n'a pas d'odeur, on ne le sent pas, et quand on reçoit la radiation, on ne peut même pas sentir à la peau, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas le percevoir par nos sens. Par exemple, moi, j'habite à la ville de Koriyama, c'est à 60 km de la centrale, on peut dire que c'est assez loin de la centrale, c'est pas à côté de la centrale.
世界中の皆さんが
Ça ne fait que 8 ans que cette centrale de Fukushima Daiichi a eu un accident majeur. Mais même autour, même au Japon, même dans le monde entier, j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas, ne savent pas exactement ce qui s'était passé, quelles sont les conséquences de ces accidents avec tous les éléments radioactifs qui ont été dispersés par cet accident.
Dans un premier temps, les radionucléides se dispersent dans l'atmosphère, mais ne se bornent pas à cette dispersion dans l'atmosphère, puisqu'il suffit qu'il y ait de la pluie, du vent, de la neige, pour que toutes ces particules se collent à la pluie et à la neige et viennent adhérer donc, sur le sol, passent dans la nappe phréatique, passent dans les océans.
Alors,
la plupart des gens face à cette question de la contamination radioactive pensent certainement que ce problème est fondamentalement un problème environnemental. Et donc, bien évidemment, il y a des problèmes environnementaux, des problèmes écologiques liés à cette contamination, mais ce n'est pas tout. J'aimerais beaucoup que les gens puissent réfléchir aussi à l'influence absolument désastreuse exercée sur les êtres humains. Donc, bien évidemment, à la suite de cette explosion, nous avons été contaminés, nous avons été irradiés, et bien sûr, ce n'était pas prévu, c'était quelque chose de toute façon qui n'était absolument pas productif, bien au contraire, c'était complètement inutile et contre notre volonté. J'aimerais aussi que vous sachiez qu'en dehors de cette contamination externe qui vient d'abord par l'atmosphère, la contamination plus interne, c'est-à-dire au niveau de la nappe phréatique de l'eau qui a eu des incidences aussi sur l'eau potable, c'est quelque chose dont nous avons fait l'expérience. Par exemple, après l'explosion dans les grandes surfaces ou les supermarchés, on ne vendait plus de l'eau minérale ou de l'eau en canette.
Oui, parce qu'il y a eu une grande confusion après le séisme, tout de suite après le 11 mars. Donc, il y a eu beaucoup de pénuries dans les magasins. Voilà, donc on ne trouvait pas facilement de l'eau minérale et elle était obligée de boire de l'eau potable.
Par exemple, Tokyo, enfin cette ville où vont avoir lieu l'année prochaine les Jeux Olympiques, on ne sait pas, enfin nous on le savait dans le département immédiatement après la catastrophe, c'est-à-dire dès le 12 au moment de l'explosion du premier réacteur nucléaire, que bien sûr nous n'avions plus d'eau potable et que même le réseau d'eau de la ville de Tokyo a été contaminé ce jour-là.
Oui, parce qu'on a eu des informations comme quoi l'eau qui a été mesurée dans une station de la ville de Tokyo, à plus de 200 km de Fukushima, a été contaminée par les radionucléides. Ça, c'était en mars 2011.
Et donc, ça, c'était la première démonstration du fait que, bien évidemment, tout ce qui pouvait être contamination radioactive, ce n'était pas borné à la population du département de Fukushima, mais que, notamment par la faute de cet accident au niveau de l'eau de ville, cette contamination s'est répandue à 200 km vers le sud, plus de 200 km vers la ville de Tokyo. Alors à ce moment-là, il y a eu bien évidemment au niveau des médias un avis comme quoi il ne fallait surtout pas, rester dans les maisons avec notamment les enfants en bas âge, mais qu'il ne fallait surtout pas leur donner de l'eau à boire, autre que l'eau minérale. Mais nous n'avions pas d'eau dans notre maison. C'est-à-dire que mes deux enfants, lui la petite qui avait quelques mois et le garçon qui avait 3 ans, j'ai été obligée de leur donner à boire de l'eau du robinet qui était contaminée.
その水を飲むことに対してものすごく抵抗があったし
Bien évidemment, j'avais une forte résistance à l'idée de donner de l'eau du robinet à boire à mes enfants, mais de toute façon, il n'y en avait pas d'autre. Et pour moi, ce qui était le plus grave, bon, mon fils, quand il avait soif, bah, il buvait le robinet. Ma fille, je l'allaitais à ce moment-là, elle avait 4 ou 5 mois. Ce qui veut dire que moi, l'eau contaminée que j'ai bu, elle passait dans mon corps, et c'est comme ça que je l'ai transmise aussi à ma fille. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, en tant qu'adultes, si quand nous sommes au courant de ces problèmes de contamination, nous pouvons prendre la décision de fuir ailleurs ce que nous avons fait. Les enfants qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine, s'il n'y a pas une initiative de leurs parents ou des adultes qui les protègent, et je vais plus loin, des initiatives du gouvernement pour prendre les mesures nécessaires permettant de protéger la santé des enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont boire de l'eau contaminée. Il y en a même, enfin, à Fukushima, quand ils jouaient sur le sol, ils ont pu bouffer de la terre contaminée. Et moi, ce que j'ai appris de cet accident de Fukushima, c'est la chose suivante. C'est que tout être humain, que ce soit un enfant en bas âge, que ce soit un vieillard, que ce soit un homme, une femme, quel que soit le milieu social, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, nous avons un droit fondamental qui est le droit de pouvoir vivre dans un environnement sain et de pouvoir donc fuir ailleurs. Le danger, ça c'est le droit fondamental, c'est ça que je retiens moi, de l'accident nucléaire de Fukushima. Je voudrais vraiment insister. Bien évidemment, le nucléaire pose des problèmes, enfin, au niveau énergétique, au niveau environnemental. Mais pour moi, le problème fondamental, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas continuer avec l'énergie nucléaire parce que ça touche au droit fondamental des gens de vivre dans un environnement en bonne santé. Et donc, si des mesures devaient être prises par le gouvernement japonais, elles ne peuvent être prises qu'à partir du moment où ils auront pris largement conscience que là, on touche à un problème qui dépasse le problème de l'environnement, qui dépasse le problème énergétique, mais qui est vraiment un problème des droits de l'homme.
Et c'est ce qu'elle voulait dire, vraiment, c'est ce qu'elle veut transmettre au public français. Madame Morimatsu est allée donc, en mars 2018 plaider donc, cette cause de droit fondamental de vivre dans un environnement sain et de pouvoir élever les enfants dans un environnement sain au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et voici, ça, c'était l'image quand elle a parlé à l'ONU. Merci beaucoup.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les...
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est sain, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor chaque semaine sur l'école Garrigue à Montpellier, Canassus, à Toulouse, à local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.